Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La situation est extrêmement préoccupante, dit ce matin Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, à propos de la propagation du coronavirus. Ce journal, évidemment, y sera consacré. Les mesures de confinement sont plus sévères depuis ce week-end et pourraient l'être encore davantage. Qu'attend le gouvernement? Nous verrons cela dans un instant.
Un exécutif qui a décidé de maintenir le premier tour des municipales hier, belle percée des écologistes, confirmation du Rassemblement national, nous ferons le point.
Les établissements scolaires, par ailleurs, sont fermés à partir d'aujourd'hui. Les cours sur Internet sont privilégiés, mais vous comprendrez que c'est loin d'être facile. La fracture numérique concerne également les jeunes.
Et puis, Clara, les confinements de population et les fermetures de frontières se multiplient. Tour d'Europe dans ce journal, puisque le continent est devenu l'épicentre de la pandémie.
Nous nous attarderons d'ailleurs en Grande-Bretagne, où l'on mise sur une immunité de masse, vous le comprendrez. C'est une semaine d'un genre inédit qui s'ouvre donc ce matin. Les Français sont privés de la plupart des lieux publics, invités à télétravailler tout en s'occupant de leurs enfants. À l'instant, le directeur général de la Santé lance un appel à la mobilisation générale de tous les Français. Il ne faut pas s'approcher les uns des autres. Le confinement généralisé est à l'étude pour éviter une propagation du coronavirus plus grande qu'actuellement. Coronavirus qui a déjà fait 127 morts, contaminé 5 423 personnes, ce n'est que le début. Hier, plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter pour les municipales et le premier tour. Le taux d'abstention pourrait atteindre 53 à 56%. Quid du second tour prévu dimanche prochain? Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé à ce propos hier soir depuis Le Havre.
C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Je réunirai à nouveau en début de semaine, le conseil scientifique, puis je consulterai les représentants des forces politiques. C'est dans une transparence totale, en prenant en compte les recommandations sanitaires, et je l'espère, dans un esprit de consensus républicain, que nous prendrons les mesures nécessaires.
Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Mesures de précaution et de sécurité oblige. Vous êtes ce matin connecté depuis votre domicile, comme la plupart des reporters de Radio France d'ailleurs, connecté et réveillé à nos côtés donc. D'abord Stéphane, pourquoi le gouvernement tarde-t-il à annoncer le confinement total?
Eh bien, il hésite. On sait que des discussions ont eu lieu hier après-midi entre directeurs de cabinet du gouvernement et qu'il est très sérieusement envisagé de confiner tous les Français chez eux, comme en Espagne et en Italie, en autorisant uniquement les sorties indispensables pour aller faire ses courses, notamment. Ce qui a surpris et qui heurte le chef de l'État et ses ministres, c'est la candeur, la désinvolture avec lesquelles les Français réagissent face à la propagation du coronavirus. Hier, il faisait beau, les parcs et jardins étaient envahis de badauds qui se promenaient nonchalamment, comme si de rien n'était. Les autorités pensaient que le discours du chef de l'État jeudi, puis les décisions du Premier ministre samedi, fermeture des écoles, des restaurants, des bars, des cinémas, allaient provoquer une prise de conscience de la population. Il n'en est rien. Cependant, l'exécutif hésite aussi parce qu'il sait que le fait d'avoir maintenu le premier tour des municipales a contribué à donner le sentiment que ce n'était finalement peut-être pas si grave que ça. Et il sait par conséquent qu'il peut difficilement prendre des mesures de confinement total tout en maintenant le second tour dimanche prochain. On voit dès lors que la question sanitaire est intimement liée à la question politique, d'où cette valse hésitation et ce délai que se donne le pouvoir exécutif avant d'annoncer des mesures plus radicales.
Et justement Stéphane, en attendant d'éventuelles mesures supplémentaires par le gouvernement, en attendant cette décision, de nombreux représentants politiques demandent depuis hier soir déjà le report du second tour des élections municipales que vous évoquiez à l'instant, l'écologiste Yannick Jadot, l'insoumis François Ruffin, Damien Abad pour les Républicains également. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, en a aussi fait la demande hier soir, report du second tour. D'abord, quels enseignements faut-il tirer du premier tour qui a eu lieu hier, Stéphane?
Eh bien, plusieurs enseignements. D'abord, la très forte prime au maire sortant qui se retrouve dans bien des cas, soit élu au premier tour, soit en ballotage très favorable pour le second. C'est le cas, par exemple, à Paris, où Anne Hidalgo arrive largement en tête, à Lille avec Martine Aubry, à Limoges, Émile Roger-Lomberti est en tête avec plus de 46% des voix, ou encore à Angers, Christophe Béchu y est élu dès le premier tour. Les membres du gouvernement qui se présentaient ont d'ailleurs bénéficié de cette prime au sortant. Gérald Darmanin, élu au premier tour à Tourcoing, Franck Riester à Coulommiers, Édouard Philippe en tête au Havre avec 42%. En revanche, pour La République en marche, en général, le faible, voire très faible score de ces candidats se confirme. Dans bien des cas, les candidats étiquetés LREM arrivent en troisième, voire quatrième position avec des scores soit en dessous des 10%, soit aux alentours des 15-17%. C'est le cas, par exemple, à Paris, Agnès Buzyn est troisième avec 17%. Troisième enseignement, le Rassemblement national consolide ses bastions. David Rachline est élu au premier tour à Fréjus, tout comme Steve Briouat à Hénin-Beaumont. En revanche, le parti de Marine Le Pen peine à s'imposer dans d'autres villes, excepté à Perpignan où Louis Alliot arrive en tête. Et puis, quatrième et dernier enseignement, les Verts, les écologistes confirment leur progression. Par exemple, ils sont en tête à Lyon, où ils sont même aux portes du pouvoir, en mesure de renverser Gérard Collomb. C'est un véritable séisme. Et puis les écologistes en tête également, favoris pour le second tour à Grenoble, où Éric Piolle confirme, ou encore à Strasbourg et à Besançon.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Robert en direct ce matin pour France Culture et ses premiers enseignements des municipales à l'aube du coronavirus. Vous parliez d'Europe Écologie Les Verts. Justement, le parti avait pointé Besançon comme une ville cible, une ville test. Le parti confirme sa percée, mais dans une drôle d'ambiance. Anne Fauquemberg nous raconte.
Les candidats défilent un à un devant le théâtre italien de Besançon. Anne Vigneault, tout d'abord. La candidate Europe Écologie Les Verts, avec sa liste d'union de la gauche, a fait 31%. Elle estime que les habitants ont envoyé un signal fort.
Les Byzantins veulent un projet écologiste. C'est un projet du 21e siècle qu'il nous faut et pas celui de la droite caricaturale que j'ai subi pendant tout ce premier tour où on me traitait de guimauve, de chasseuse de papillons. On a besoin de faire du collectif, du commun. Il n'y a que comme ça qu'on sortira de cette crise-là.
Ludovic Fagot, le candidat LR, arrivé deuxième avec 23% des voix, n'est pas de cet avis.
On refuse aujourd'hui que Besançon devienne vraiment ce laboratoire de l'écologie communiste. Et puis on vient d'entendre maintenant même peut-être de la France insoumise, c'est-à-dire des extrêmes.
Si second tour il y avait, Anne Vigneault tendrait la main en effet à Claire Arnoux, l'insoumise qui a fait 8%. Mais tout a changé hier, résume le candidat LREM Éric Alauzé, arrivé troisième avec 18% des voix.
On a un cheminement parallèle d'un processus démocratique et citoyen qui avance, peut-être va être arrêté. Et puis le cheminement d'une maladie qui de jour en jour nous montre sa gravité. Et donc il faut savoir s'adapter au jour le jour, voire d'heure en heure.
Et dans ces cheminements parallèles, le RN semble s'être perdu en route. Jacques Ricciardetti, cinquième, était très déçu hier soir tout en interrogeant l'abstention à plus de 60%.
Abstention record en effet hier, nous vous le disions d'ailleurs, près de 55% au niveau national, 55% d'abstention. Cela s'explique en grande partie par la peur de la contamination et le coronavirus. Mais le scrutin ne doit pas pour autant être remis en cause selon Yves Bardon de l'Institut Ipsos Soprasteria, institut partenaire de Radio France.
On voit deux choses. La première, c'est qu'il y a une dynamique d'augmentation de l'abstention depuis au moins 10-15 ans. Ça, c'est absolument incontestable. Elle s'explique parce que il y a ce désenchantement à l'égard de la vie politique, des questionnements sur l'offre politique elle-même et sur la situation du pays, etc. Et puis, il y a évidemment l'arrivée du virus qui, pour les Français qui ont déclaré qu'ils s'abstiendraient, qui est à l'origine de leur initiative, de leur volonté de ne pas y aller, c'est une peur extrêmement puissante qui s'est développée depuis quelques jours. On a observé un effet avant-après le discours du président de la République qui a confirmé et amplifié les craintes à l'égard de la diffusion du virus. Évidemment, ça n'a pas donné aux gens envie d'aller se déplacer pour voter. Plus ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, sur le fait que tous les bureaux de vote n'étaient pas bien équipés pour sécuriser les votants. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que structurellement, il y a cette désaffection à l'égard de la politique, des partis traditionnels, et que le renouveau que l'élection d'Emmanuel Macron promettait avec le monde de demain qui allait succéder au monde d'avant, cette promesse n'est toujours pas au rendez-vous.
Municipal, quelle politique en temps de crise ? Nous reprendrons la discussion après ce journal avec vous, Guillaume, et votre invité.
Mais en attendant, il est 8h09 sur France Culture et c'est la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal. On revient aux mesures de précaution face au coronavirus.
Mesures qui coûtent touche notamment à partir de ce matin 12 millions d'élèves, 1 600 000 étudiants, puisque les crèches, les écoles, les universités sont fermées. Le ministre de l'Éducation nationale promet une continuité pédagogique, comprenez des cours sur Internet à suivre à la maison. Une proposition difficilement tenable, car tous les élèves ne sont pas égaux face au numérique, Elia Burgel.
Les apparences sont trompeuses. 91% des 12-17 ans possèdent un ordinateur, mais tous ne savent pas forcément s'en servir, prévient Alexandre Micot, responsable à Paris de l'association Emmaüs Connect.
C'est pas parce qu'on est équipé d'un ordinateur, qu'on est équipé d'un smartphone, qu'on est équipé d'une tablette, qu'on sait utiliser la tablette et qu'on va savoir aller consulter un cours en ligne et participer à ce genre de choses.
Alexandre Micot lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire des difficultés à utiliser Internet ou son ordinateur dans la vie de tous les jours. Ça concerne 17% de la population et même les plus jeunes n'y échappent pas.
La précarité, c'est clairement le dénominateur commun de toutes ces personnes-là. De temps en temps, ça arrive qu'effectivement, on ait des mineurs. Dans la plupart des cas, c'est qu'à la maison, ils n'ont pas les moyens de leur payer l'équipement.
Ces cours sur Internet se font via la classe à la maison du CNED, l'organisme officiel d'enseignement à distance, des classes virtuelles aussi, des professeurs filmés en visioconférence. Mais Françoise Popineau, la patronne du FNUPP-FSU, le premier syndicat d'enseignants dans le primaire, redoute que les plus précaires soient désavantagés.
Les enfants des familles qui ne possèdent pas d'ordinateur, il ne faut pas les mettre au banc de l'école. Hein. Il s'agit bien de faire l'école pour tous les enfants. Donc, il faut que les enfants qui n'ont pas d'ordinateur à la maison puissent suivre quand même l'activité scolaire.
Et face à ces inquiétudes, le ministère de l'Éducation nationale assure qu'une permanence pédagogique sera mise en place dans les écoles et que toutes les activités scolaires disponibles sur Internet le seront aussi sur du papier.
Et sachez par ailleurs que France Culture se mobilise pour les jeunes et les enfants. Retrouver Être et Savoir, diffusé hier soir sur notre antenne. L'émission était consacrée justement aux possibilités d'assurer la continuité de l'enseignement. Autre inquiétude, celle des fédérations du commerce et de l'industrie. Leurs représentants s'entretiendront par téléphone avec le ministre de l'économie aujourd'hui. Des mesures pour permettre aux salariés et aux entreprises de tenir pendant cette crise seront prises, quoi qu'il en coûte, disait encore la semaine dernière le président de la République Emmanuel Macron. Depuis la fermeture des commerces non essentiels ce week-end, 2 millions de travailleurs sont au chômage partiel, chômage pris en charge par l'État. Qu'en est-il maintenant du continent européen dans son ensemble? Continent européen épicentre désormais de la pandémie de coronavirus. Plus de 2000 décès y sont recensés à cause de cette épidémie. 2000 morts, dont 1800 rien qu'en Italie, où la quarantaine dure d'ailleurs depuis une semaine maintenant. Peu à peu, les autres pays s'isolent également, Louise Baudet.
Population confinée sous la surveillance des forces de l'ordre en Italie mais aussi en Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe où l'état d'urgence est décrété pour 15 jours. En France, mais aussi aux Pays-Bas et au Luxembourg, tous les lieux publics et commerces non essentiels sont fermés. L'Autriche interdit les rassemblements de plus de 5 personnes et limite les déplacements au strict nécessaire. La Grèce n'autorise pas plus d'une personne pour 10 mètres carrés dans les supermarchés. En Irlande, les pubs restent portes closes. Enfin, les établissements scolaires sont fermés dans la plupart des pays européens. De façon plus ou moins coercitive, chacun exhorte sa population à rester chez elle et protège ses frontières. Après l'Autriche, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Lituanie ferment leurs portes aux étrangers, tandis que la Lettonie, l'Estonie et Monaco adoptent des restrictions drastiques. Peu à peu, l'Europe se barricade jusqu'aux pays les plus attachés à la libre circulation. Ainsi, la frontière entre l'Allemagne et la France est à partir de ce matin partiellement fermée. Seuls les transports de marchandises et les travailleurs transfrontaliers sont autorisés à passer. Fermeture partielle ou contrôle renforcé, Berlin et Paris divergent sur les mots, mais assurent s'être coordonnées au rebours d'une Europe où, loin du projet initialement porté, chacun agit en ordre dispersé.
Et il y a un pays qui agit à rebours, notamment le Royaume-Uni. Aucune mesure ou presque n'a été prise ces derniers jours. Le gouvernement outre-Manche a une stratégie bien particulière. Il compte sur une immunité de masse pour que la maladie ne se reproduise pas. Cela génère un certain flou, Haute-Sophie.
La presse britannique ce week-end était pleine de rumeurs. Les autorités s'apprêteraient à interdire les rassemblements de plus de 500 personnes, à placer les plus de 70 ans en quarantaine pendant des mois. Mais dans les faits, rien n'est mis en œuvre au Royaume-Uni. Les établissements scolaires sont toujours ouverts, les transports publics sont en service et les entreprises fonctionnent normalement. Selon les conseillers scientifiques du gouvernement, commencer à prendre des mesures radicales trop tôt finirait par lasser la population et serait contre-productif. La seule consigne est de s'isoler en cas de symptômes. Le Premier ministre Boris Johnson est presque fataliste.
Cette maladie est dangereuse. Elle va se répandre encore plus. Et je dois être honnête avec les Britanniques. Beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers prématurément.
L'idée des autorités britanniques est d'essayer de protéger les plus faibles, mais d'accepter que 60 à 80% de la population contracte le virus. Patrick Vallance, le principal conseiller scientifique du gouvernement.
Nous voulons maîtriser l'épidémie, pas s'en débarrasser complètement, ce qui est de toute façon impossible, et aussi permettre à suffisamment d'entre nous qui allons avoir une maladie assez modérée de devenir immunisés pour aider à une réponse collective qui protégera tout le monde.
Selon le Guardian, le département de la santé britannique se préparerait à une épidémie durant jusqu'au printemps 2021, au cours de laquelle près de 8 millions de personnes seraient hospitalisées.
C'était Aude Soufi depuis Londres pour France Culture. J'ajoute enfin qu'aux États-Unis, New York ferme ses écoles et ses restaurants, fin des bars et des discothèques à Los Angeles. Vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le Covid-19 et ses conséquences sur notre site franceculture.fr ainsi qu'un podcast qui est dédié radiographie du coronavirus. Nous terminons ce journal avec quelques mots de météo, même si les déplacements, on le répète, doivent être limités au maximum. De l'Aquitaine à la Lorraine, Météo France prévoit aujourd'hui de gros nuages et de la pluie. Il y aura de belles éclaircies en revanche sur le nord-ouest et le sud-est avec ce matin 9 degrés à Paris et à Nantes, 10 à Lille, Besançon, Bordeaux, 11 degrés à Lyon et 16 à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.